au 97.3. On vous donne le juste.
On est avec Marianne Chevaux, qui est chercheuse au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, où elle travaille à la direction de l'expertise sur la faune terrestre. On est ici pour se parler des premiers résultats par rapport à la collecte d'échantillons de grands canidés qui sont désormais disponibles. Premièrement, pouvez-vous nous rappeler quelle est cette collecte d'échantillons en tant que telle et quel est le but?
Oui, alors c'est un projet de recherche qu'on a parti l'année dernière. L'objectif, c'est d'améliorer notre compréhension là, de la répartition des différents grands canidés qu'on a au Québec. Il y avait déjà eu une étude par le passé, mais ça avait révélé qu'il y avait des trous là, dans notre répartition. Puis là, on voulait améliorer ça, aller chercher des échantillons dans les régions pour lesquelles on n'en avait pas. Donc, c'est l'objectif du projet, de mieux comprendre là, comment les grands canidés, parce qu'il y a plusieurs groupes de grands canidés là, au Québec. Donc, comment ça se répartit chez nous pour mieux comprendre ce qui se passe?
Et je crois avoir compris que les chasseurs et les trappeurs qui ont fourni des échantillons lors de la saison de chasse et de piégeage peuvent maintenant connaître le groupe génétique auquel l'animal appartient. Pouvez-vous m'en dire davantage?
Oui, alors on a une page web qui est dédiée là, justement au retour de l'information à nos précieux collaborateurs que sont les piégeurs et même quelques chasseurs. Donc, les gens peuvent facilement inscrire leur matricule de piégeur et avoir accès à leurs résultats là, spécifiques aux échantillons qu'eux ont fournis. Ça nous assure la confidentialité là, parce que évidemment les gens souhaitent pas nécessairement que ce soit connu où est-ce qu'ils piègent et quels échantillons ils ont fournis. Donc, ils ont accès à ça spécifiquement pour les échantillons qu'ils ont fournis. Puis, pour l'instant, c'est des résultats qui sont préliminaires parce qu'on n'a pas encore l'ensemble des résultats, mais on a quand même mis en place là, la page web tout de suite là, pour qu'ils puissent commencer là, à voir au compte-gouttes là, les résultats qui rentrent.
Et du côté du ministère, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette collecte d'échantillons?
Ben comme j'ai dit, pour l'instant, c'est des résultats préliminaires. Alors, on fera pas de conclusion, là, mais c'est un exercice là qui est important là pour mieux comprendre ce que les grands canidés du Québec. On sait que on a, comme je disais, 4 groupes génétiques. Donc, au-delà des 2 espèces bien connues, le loup gris et le coyote, il y a des groupes génétiques. Donc, c'est comme une subdivision finalement. À l'intérieur de ces groupes-là, on a le coyote de l'Est, le loup de l'Est, le loup boréal et le loup gris. Et il faut savoir que tous ces groupes-là se mélangent beaucoup entre eux, aussi bien sur le territoire que physiquement, là, en s'hybridant, en se reproduisant ensemble. Et que ça fait un gros mélange. Et c'est vraiment une situation là qui est compliquée. Donc il faut vraiment augmenter le nombre d'échantillons qu'on a disponibles afin de mieux comprendre là, qu'est-ce qui se passe parce que. Il y a une structure, on va dire, de latitude nord-sud là, dans la répartition de ces différents groupes-là. Donc, au nord, dans le grand nord, au nord du 50e parallèle, c'est essentiellement des loups gris qu'on retrouve. Une petite proportion d'hybrides, mais presque que des loups gris assez purs génétiquement. Au sud du fleuve, on a essentiellement des coyotes. En fait, on estime qu'il y a plus ou presque plus de loups là, sur la rive sud. En fait, il y a peut-être quelques individus isolés, mais normalement, il n'y a que des coyotes. Puis entre les deux, ben, c'est là que c'est beaucoup plus compliqué parce que les différents groupes génétiques vont se mélanger, vont occuper le même territoire. Donc là, on a des loups boréaux qui sont essentiellement dans la zone de forêt boréale mélangée et résineuse. On a le loup de l'Est qui, lui, semble être plus dans la forêt feuillue du nord du fleuve. Mais il y a aussi énormément d'hybrides entre tous ces groupes-là dans cette zone-là. Donc, c'est un portrait qui est quand même complexe et ça nous prend plus d'échantillons pour justement mieux comprendre là, qu'est-ce qui se passe.
Et si on se concentre sur la région de l'Outaouais, quelle population de loups est-ce qui sont présentes ici?
Alors, nous, on n'a pas fait d'études spécifiques là, en Outaouais. Par contre, il y a une étude qui a été réalisée, là, qui n'a pas été menée par le ministère, mais qui a montré qu'il y avait 46 % de coyotes 40 % d'hybrides et 13 % de loups. Donc, je pense que l'Outaouais est une zone dans laquelle il y a beaucoup de mélange des différents groupes génétiques, beaucoup d'hybridation, mais on n'a pas énormément d'échantillons encore. Et justement, là, dans l'exercice qu'on a amorcé l'année passée, les piégeurs de l'Outaouais ont beaucoup contribué. Là, ils ont fourni 116 échantillons. Donc, on vient d'augmenter là, de beaucoup là, le nombre d'échantillons disponibles pour votre région. Donc, on va pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Là.
Ah, ça, c'est des très bonnes nouvelles. Pouvez-vous nous parler est-ce qu'il y a un déplacement, est-ce qu'il y a un mouvement dans les populations de loups sur le territoire? Puis là, je parle pas juste dans l'Outaouais, au Québec en général, par exemple, est-ce qu'on remarque qu'ils remontent plus vers le nord? Est-ce qu'il y a des mouvements comme ça?
Bien, au niveau des loups, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le loup est présent pas mal dans tout le territoire du Québec, à l'exception de la Rive-Sud, comme je disais tantôt, où on estime que ils ont à peu près disparu là, il y a une centaine d'années, à part peut-être quelques individus isolés. Donc, les loups sont présents partout sur la rive nord. Par contre, le coyote, lui, ça a beaucoup changé. Le premier coyote, il a été identifié en 1944, d'ailleurs en Outaouais. Et depuis, là, il a fait une progression fulgurante. Il a colonisé là, une grande partie du Québec. Et oui, en effet, il monte vers le nord. Donc, plus il monte vers le nord, bien, plus il rencontre des loups et plus il y a d'occasion de s'hybrider avec les loups. Donc, au niveau des coyotes, là, c'est vraiment impressionnant là, la progression de cette espèce-là. Il faut savoir que les canidés, c'est quand même des espèces très adaptatives. Là. Ils s'adaptent à plein de situations, notamment les coyotes. Là. Donc, ils prennent vraiment beaucoup d'ampleur. Là.
Et est-ce qu'on peut établir un lien avec les changements climatiques ou ça n'a pas lieu d'être?
Ben, ça doit jouer en partie, mais c'est plus, on pense, lié aux modifications de l'utilisation du territoire. Les loups, c'est vraiment des espèces plus forestières. Le coyote est beaucoup plus adapté à des milieux anthropisés, donc avec des champs, des petits îlots forestiers. Donc, il se débrouille très bien dans des milieux comme ça. Donc, il est favorisé, le coyote, par la présence humaine, en quelque sorte, là, parce que, ben oui, il y a des opportunités possiblement de manger du bétail des fois, là, mais c'est sûrement pas la grande majorité, mais néanmoins, il s'adapte très bien à des milieux là, où l'homme est présent. C'est vraiment plus le changement d'utilisation des terres puis la présence humaine qui modifie les habitats naturels qui favorise le coyote. Mais cela dit, là, les coyotes vont au-delà du 52e parallèle maintenant, là, sont sûrement pas très abondants à cette latitude-là, mais néanmoins, ils colonisent vraiment là, tout le Québec là, maintenant, même des endroits peu perturbés. Là.
Dernière question. On s'éloigne un peu du sujet, mais je trouve ça intéressant et ça fait beaucoup parler en ce moment. Le fameux coy-loup, donc l'hybridation entre le loup et le coyote. Est-ce qu'on observe une augmentation de la population?
Bien, notre étude va pouvoir montrer si justement il y a une augmentation du nombre d'hybrides par rapport à la précédente étude qui avait été faite dans le milieu des années 2010. Mais c'est possible, en effet, parce que comme le coyote prend plus en plus de place, il y a plus d'opportunités là, de rencontrer des loups, donc de s'hybrider. Mais il faut quand même réaliser que l'hybridation, c'est un phénomène qui est naturel. Là. C'est l'évolution. Là. C'est pas nécessairement négatif en soi. Ça permet l'hybridation aux animaux de s'adapter à des changements dans leur environnement. Donc, c'est naturel, tout ça. Néanmoins, oui, l'hybridation, elle existe. Globalement, au Québec, là, selon la première étude qu'on avait faite au milieu des années 2010, il y a entre 25 et 30 % d'hybrides loup-coyote ou loup-loup. En fait, c'est l'hybridation, c'est entre les différents groupes génétiques, donc les quatre groupes génétiques dont je parlais. Mais localement, il peut y avoir même beaucoup plus que ça. Il y a des régions où il y a probablement plus d'hybrides encore. Dans le fond, là où est le front de colonisation un peu là, du coyote, forcément, il y a plus d'opportunités. Donc, on dirait peut-être entre 30 et 40 % d'hybrides loup-coyote, puis quand même 50 % d'hybrides loup-loup là, parmi les hybrides qu'on a répertoriés. Là. Puis, en fait, ben, plus le coyote monte, plus il y a des chances de s'hybrider. Donc, dans la zone de la forêt feuillue du nord du fleuve Saint-Laurent, c'est là qu'on a le plus d'hybrides. Plus on monte vers le nord, comme le coyote est moins en moins présent, ben ce taux d'hybridation-là, il diminue plus on monte vers le nord. Puis dans la toundra, ben il y en a plus d'hybridation parce que c'est presque que des loups, là. Il n'est pas rendu tout à fait à cet endroit-là. Donc oui, plus le coyote prend du territoire, plus il va rencontrer des loups et s'hybrider. Donc c'est probable que la proportion d'hybride va augmenter. Hein.
Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. C'est très intéressant tout ça. On se dit à la prochaine fois.
Merci.
C'était Marianne Chevaux, qui est chercheuse au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, où elle travaille à la direction de l'expertise sur la faune terrestre.
Au 97.3, on vous donne l'heure juste. C-H-G-A.
Voilà ce qui conclut cette première édition de l'heure juste pour l'année 2026. Merci de choisir le 97.3 pour vous informer et merci de suivre l'heure juste. Vous avez pu entendre nos journalistes Michel Tanganyika et Alexis Goyer parler avec Ève-Marie Hébert et Marianne Chevaux. La première est chargée de projets en adaptation au changement climatique pour le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais. La seconde est biologiste au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. On les remercie chaleureusement pour avoir accepté de nous parler aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'heure juste en rattrapage sur notre site internet dans la section balado. C'était Simon Dominé, directeur de l'information. Je vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine.